Eh bien, bonjour, mon nom est Kevin. Je vais être votre instructeur pour aujourd'hui. Ça me fait plaisir que vous soyez tous ici. Ceci est vraiment une très bonne opportunité pour chacun d'entre vous. Parce que je prévois des événements dans le monde entier, en sachant que certaines régions auront des centaines et des centaines de personnes qui viendront, comme nous avons fait aux États-Unis. Et d'autres endroits auront des groupes bien plus petits, comme ici, ce qui va donner à chacun d'entre vous la possibilité de poser plein de questions et de recevoir beaucoup d'attention personnelle. Et pour l'enregistrement, pour les personnes qui vont écouter, ils vont pouvoir bénéficier aussi du type de questions que vous allez poser. Quelques questions pour démarrer, pour me permettre de voir en levant la main. Combien de personnes ici ont effectivement écouté la série de CD « Votre désir et votre ordre » Ok, quelques-uns ne l'ont pas écouté. C'est très important, si vous n'avez pas écouté votre désir et votre ordre, d'écouter cette série de CD. Parce que l'enseignement de base dont nous allons parler au niveau 1 est entièrement basé sur le matériel couvert dans votre désir et votre ordre. Alors, comme vous le savez, ceci est l'enseignement de base. Ceci est la deuxième session, nous en avons eu une à Chicago, il y a quelque temps en fait, samedi dernier. Donc ceci est la deuxième session en direct d'enseignement pour le niveau 1. Nous enregistrons tout cela. Et au cours du temps, quand une personne adhère au Global Information Network en tant que membre, ils vont écouter les versions audio de tous les enseignements de base, afin de pouvoir se qualifier d'arriver au niveau 2, etc. Nous le faisons en direct, ce qui est une sorte d'avantage pour chacun d'entre vous. Et ensuite, nous allons faire en direct l'enseignement pour le niveau 2, puis ensuite en direct l'enseignement pour le niveau 3, etc. Nous aurons des enseignements en direct, évidemment, à chacun des niveaux, mais l'enseignement de base va être enregistré et disponible pour ses membres futurs. Mais l'enseignement de base au niveau 1 est entièrement fondé sur votre désir et votre ordre, cette série de CD, tout le matériel couvert dans cette série de CD. Donc si vous n'avez pas écouté, vous avez vraiment besoin de l'écouter, c'est vraiment important. Tout ce que je couvre ici vient de cette série de CD. Et nous développons sur la base de cette information. C'est pas grave si vous n'avez pas écouté, vous allez évidemment recevoir beaucoup d'informations ici. Mais cette série vraiment est le point crucial de l'enseignement de base du niveau 1. Alors, en gardant ça à l'esprit, je voudrais couvrir un certain nombre de choses basiques. Je vais déplacer cela ici. L'avantage d'être membre de GIN, et nous allons utiliser l'intitulé GIN au lieu de Global Information Network. Les avantages fondamentaux viennent de l'enseignement initial que j'ai reçu en tant que membre de la Brotherhood et des 30 ou plus initiateurs ou fondateurs de GIN qui viennent de différentes organisations dans le monde. Et nous avons travaillé sur cela, si vous avez écouté n'importe lequel des audios d'enseignement sur le site web. En 1999, c'est quand cela a commencé à être formé. Et c'est pendant l'année 2000 que cela a vraiment commencé à être formulé. Nous l'avons lancé récemment, nous sommes en train en fait de le pré-lancer. Vous savez que le lancement officiel aura lieu le 1er novembre. Mais l'entraînement de base est destiné à vous permettre d'avoir tout le matériel dont vous avez besoin, toute la connaissance dont vous avez besoin, afin que vous puissiez avoir, être ou faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Que ce soit une entreprise, une carrière réussie dans les affaires, que ce soit de l'argent financier, ou que ce soit une relation personnelle, ou que ce soit d'obtenir un plus grand sens de plénitude, de bien-être émotionnel, dans tout domaine quel qu'il soit. Et tout cela commence autour d'un noyau dur de matériel d'enseignement de base. C'est une fondation. La fondation, les fondamentaux, les bases sont ce sur quoi tout est construit. Donc nous allons passer beaucoup de temps à travailler et à vous faire travailler pour être sûr que vous avez cette fondation. Vous pouvez seulement construire aussi haut que votre fondation est profonde. Tout tourne autour des bases et des fondamentaux. Tout tourne autour, ou tout va tourner autour de cette fondation. J'ai raconté l'histoire, si vous avez écouté votre désir, votre ordre, au sujet de l'enseignement que j'ai reçu de Xi Anming, un moine Shaolin du temple Shaolin en Chine. Et quand j'ai travaillé avec lui, mon entraîneur, mon maître, qui était chinois également, mais qui parlait très bien l'anglais, faisait l'interprète. Entre moi et Xiang Min, qui ne parlait pas un très bon anglais à cette époque-là. Il parle beaucoup mieux l'anglais maintenant. Mais à cette époque, je m'étais entraîné dans les arts martiaux Shaolin depuis des années, depuis que j'étais tout petit. Et je voulais apprendre les secrets du temple Shaolin. Donc là, j'étais devant le seul véritable moine Shaolin combattant qui avait vécu au temple depuis l'âge de 5 ans. Il s'est enfui, il est parti. Et donc là, vous avez vraiment le seul véritable moine qui a vraiment vécu dans le temple, qui a vraiment quitté. Tous les autres, en réalité, sont entraînés dans les écoles Wushu à l'extérieur du temple. Et c'est plus du théâtre que le véritable entraînement du temple. Donc voilà un type qui connaissait les secrets. Et je l'avais juste devant moi. Et alors je lui dis, vous savez, je me suis entraîné toute ma vie dans les arts martiaux Shaolin, et donc je veux vraiment obtenir les secrets du temple Shaolin. Et mon maître lui a parlé en chinois, et Tianming a communiqué avec maître Tai, et maître Tai a dit, viens, il veut t'apprendre des secrets, il veut t'apprendre comment donner un coup de poing. Et je lui ai dit, non, je sais comment donner des coups de poing. Je veux apprendre les trucs avancés du temple Shaolin, pas les trucs de base. Alors ils ont parlé encore une fois, et il a dit, non, je veux vraiment vous montrer comment donner un coup de poing. Alors je lui ai dit, non, dis-lui que je veux apprendre les trucs avancés, les vrais trucs, tu sais, les trucs secrets du temple. Dis-lui que je sais comment donner un coup de poing, dis-lui que j'ai été entraîné. Alors ils ont encore discuté une fois, et il a dit, non, il dit qu'il veut vraiment t'apprendre comment donner un coup de poing. Et il a dit, mais il veut voir ton coup de poing d'abord. Je dis, d'accord. Alors ils sont allés dans la pièce à côté, ils ont ramené une bougie, parce que c'était en fait chez Maître Tai. Ils ont allumé la bougie, et il a dit, il veut que tu donnes un coup de poing avec la force maximum, et que tu arrêtes ton coup de poing à 2,5 cm de la flamme de la bougie, à cette distance de la flamme. J'ai dit, parfait, pas de problème, comme ça il pourra voir ma technique, il pourra voir comment je peux contrôler mon coup de poing, et ensuite il va m'enseigner les trucs avancés. Il va savoir que... Alors, j'allais donner le coup, et je dis, quel type de coup vous voulez? Dans genre, vous savez, vous choisissez un coup, je connais le coup. Ah, vous connaissez ce coup? Oh oui, oui. N'importe quel coup, c'est parfait. Alors je donne le coup, la forme est parfaite, je m'arrête 2,5 cm avant la flamme de la bougie, ma main ne bouge pas, tout est parfait. Il discute, il dit qu'il est très impressionné par ton coup. Merci. Il dit que maintenant il veut te montrer son coup. Alors il s'est levé, il a souri, il a donné un coup, il s'est arrêté à cette distance de la flamme de la bougie, et la flamme de la bougie s'est éteinte. Et j'ai regardé, et j'ai dit, dis-lui que je veux apprendre comment faire ça. Et il a dit, c'est ça qu'il est en train d'essayer de te dire, il veut te montrer comment donner un coup. Et ce qui est important, c'est qu'il a fait cette affirmation très intéressante, en chinois. Il a dit, je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais, que tu as pratiqués seulement une fois chacun. Je suis intimidé par le coup que tu connais, que tu as pratiqué 10 000 fois. Et il a expliqué, si vous voulez devenir un maître, vous devez maîtriser les fondamentaux. Vous devez maîtriser les bases. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Quand on regarde les gens dans le monde, leurs bases, leurs principes fondamentaux, leurs fondamentaux sont toujours faibles. Ils travaillent sur quelque chose ici, mais ils n'ont pas les fondations de base. Dans n'importe quel sport, j'ai passé beaucoup de temps en Amérique, j'ai joué au baseball, presque au niveau professionnel. Et les superstars, les all-stars, ce qu'on appelle les gold gloves, les gants d'or, dans le baseball américain, ils pratiquent des centaines de balles au sol de base, et pratiquent simplement le lancer basique pour la première base, simplement travailler sur les bases, encore et encore, même si le gars était dans l'équipe des all-stars pendant les 5 dernières années, il tape toujours des centaines de balles vers le sol, pour s'entraîner. Et Tiger Woods est venu ici, et j'étais avec lui. J'ai lancé le Golf Channel en Angleterre il y a quelques années. Je l'ai vendu maintenant. Et j'étais à la Ryder Cup et je le regardais, vous savez, en train de s'échauffer au Belfry en Angleterre. Et il faisait simplement des coups simples. Il faisait pas tous ces coups très compliqués. Il s'entraîne aussi sur ces coups-là. Mais tout son entraînement de base est constitué par les coups de base. Quand il arrive sur le green, il s'entraîne sur des putts directs de 1m50. Pas des grands coups tordus ou à 15 mètres, des putts directs à 1m50. Encore et encore et encore. Simplement les bases, simplement les fondations. Donc ça, c'est sur quoi on va travailler. Je voudrais faire maintenant quelques-unes des bases, pour être sûr que vous êtes tous à niveau. Et ensuite, on va arriver à du nouveau matériel pour, en quelque sorte, étendre, développer à partir de ce matériel de base. Le premier fondamental de base, dont nous avons parlé dans la série « Votre désir et votre ordre », est « Qui est-ce que vous écoutez ?» Parce que quand vous apprenez de nouvelles informations, la question est « D'où est-ce que vous l'obtenez ? Qui est-ce que vous écoutez ?» Alors, est-ce que certains d'entre vous étaient à Chicago ? En fait, ah, vous étiez à Chicago, ok ? Tous les deux, vous étiez à Chicago. Donc, à Chicago, j'ai développé cela. Et je vais vous tester maintenant, je vais voir si vous en souvenez. On a parlé de beaucoup de choses là-bas, je sais. C'est pas grave si vous en souvenez pas. Mais il y a deux personnes dont j'ai dit il faut que vous les écoutiez. Vous vous souvenez qui c'était ?
Vous-même.
Oui, ça c'était la troisième, mais les deux premières.
Les personnes qui ont ce que vous voulez et qui ont été là où vous êtes.
Parfait. Les deux personnes que vous écoutez sont les personnes qui ont ce que vous voulez et les personnes qui ont été où vous avez été, où vous êtes. Et ça, c'est vraiment important. Si vous écoutez quelqu'un qui est vraiment, vraiment riche, qui vient d'une famille vraiment, vraiment riche, et vous ne venez pas d'une très riche famille, vous n'êtes pas allé à Harvard, et vous n'êtes pas allé à la Business School de Wharton, et vous n'êtes pas allé à l'université d'Oxford ou de Cambridge, à ce moment-là, vous n'allez pas obtenir la même valeur de cette personne. Elle est à une perspective différente. Donc, vous devez écouter les personnes qui ont ce que vous voulez, ça c'est vraiment important, mais également les personnes qui ont été là où vous êtes. Comme ça, ils savent. Alors, la troisième chose que vous avez mentionnée ici, votre prénom c'est Brandon. Brandon, la première chose que vous avez mentionnée, c'est ce vers quoi on va vous conduire, en fin de compte. Nous allons non pas redéfinir ceci, mais reclasser ceci. Qui est-ce que vous écoutez va vraiment commencer à se transformer en de qui est-ce que vous obtenez conseil ? Ou de qui est-ce que vous obtenez l'opinion ? Obtenir des conseils ou une opinion, c'est excellent. Mais vous ne recevez pas d'ordre de quiconque. Ceci est une clé très importante. Vous ne dites pas « il m'a dit, je dois faire ceci ». Donc ce en quoi cela va se transformer, c'est les personnes qui ont ce que vous voulez et les personnes qui ont été là où vous êtes. C'est en réalité de qui est-ce que vous obtenez des conseils et des opinions. Et ensuite, vous prenez la décision. Parce que, en définitive, comme Brandon l'a relevé, et comme j'ai expliqué dans le précédent séminaire, vous n'allez écouter qu'une seule personne. Et c'est vous-même. Parce que vous êtes le seul à savoir ce que vous ressentez, et vous avez un système de guidance interne qui va vous dire quelle est la bonne décision, quelle est la meilleure décision pour vous à ce moment précis. Il n'y a que vous qui savez. Toutes les personnes qui ont réussi, au très haut niveau, s'écoutent toujours elles-mêmes. Ici même, dans cette pièce dans laquelle vous êtes, il y a plusieurs années. Vous savez qui s'est réuni ici ?
Bilderberg.
Le groupe Bilderberg. Il y a 15 ans, le groupe Bilderberg, entre guillemets, était inexistant, n'existait pas. C'était une fantaisie, un mythe. C'était la théorie de la conspiration. Et maintenant, ils admettent, ok, oui, on vient de se voir en Grèce, ok, on se réunit. Mais on ne fait rien, on joue simplement au pinacle toute la journée. Ok, croyez-moi, ce n'est pas ce qui se passe. Exactement dans cet hôtel, exactement dans cette salle, il y a eu des membres du Bilderberg. Et chaque personne individuelle s'écoute elle-même. Mais ils prennent conseil, ils obtiennent des opinions d'autres personnes. Vraiment important. Mais vous ne recevez pas d'ordre. Et je vais vous donner un exemple de ceci. Dans le passé, j'ai écrit un ensemble de règles sur ces principes, sur la manière dont elles s'appliquent dans les affaires. Et nous allons enseigner cet ensemble de principes à travers ces règles. Et je vais en fait distribuer pour la première fois ces règles écrites. et on les étudiera. L'une de ces règles est en relation avec les avocats, les conseils juridiques. Et elle met en avant une dynamique très intéressante que très peu de personnes comprennent. Dans la règle sur les avocats et les conseils juridiques, il est dit précisément, quand nous parlons, ces règles sont pour les membres du personnel et les cadres à l'intérieur de mon organisation. Et cela dit, nous ne travaillons pour aucun avocat et nous ne travaillons pour aucun conseil juridique ou nous ne travaillons pour aucun comptable. Nous ne travaillons pas pour eux. Ils travaillent pour nous. Ne dites jamais « le comptable a dit qu'on doit faire ceci ». Ne dites jamais « l'avocat ne va jamais me laisser faire ceci ». Qu'est-ce que vous voulez dire, un avocat ne va pas vous laisser faire ceci ? Il nous facture. Il est sur la liste des personnes que nous payons. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Nous ne recevons pas d'ordre de lui, simplement parce qu'il est avocat. Nous recevons ses conseils, mais nous ne recevons pas d'ordre. Donc, qui est-ce que vous écoutez ? En réalité, ça revient à vous obtenez des conseils. Et j'ai mentionné le mot-clé ici. Vous obtenez des opinions. Notez que j'ai dit des opinions. La raison pour laquelle j'ai dit des opinions, c'est parce que les faits sont très rares lorsque vous obtenez des informations de quelqu'un d'autre. Vous obtenez leur opinion. 95% de ce que nous pensons qui sont des faits ne sont pas du tout des faits. Ce ne sont rien d'autre que des opinions. Donc, qui est-ce que vous écoutez ? Élément clé. Ceux qui ont ce que vous voulez. Et la raison pour laquelle je vous fais travailler ça, c'est parce que ça, ce sont des informations que vous devez réellement savoir. Quand vous allez arriver au niveau 2, d'abord, vous allez étudier toutes ces informations. Mais afin de vous qualifier pour le niveau 2, vous allez devoir passer un petit examen en ligne qui va vous poser quelques-unes de ces questions. Donc, vous devez connaître ces informations. Et vous devez vraiment les savoir. Donc, qui est-ce que vous écoutez ? Ceux qui ont ce que vous voulez, ceux qui ont été où vous êtes, et au final, vous allez vous écouter vous-même. Voilà en quoi ça va se transformer. De qui est-ce que nous obtenons des conseils ou des recommandations ? Le concept de base suivant, qui est clé, est ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. À quel point êtes-vous enseignable ? Est-ce que l'un d'entre vous connaît les deux variables de l'indice d'enseignabilité ? La volonté d'apprendre et la volonté d'accepter le changement. Donc, ces deux-là sont vraiment deux éléments clés. Si vous écoutez la série « Votre désir et votre ordre », j'ai parlé de cela pendant au moins une heure. Parce que ces principes sont tellement importants que vous n'irez jamais plus loin à moins d'atteindre ces niveaux. Et je vois des gens qui veulent vraiment avoir du succès, et je leur parle pendant quelques minutes où ils viennent me voir, et je leur dis « Stop, où est-ce qu'en est votre indice d'enseignabilité maintenant ?» Donc, la volonté d'apprendre, alors évidemment, vous êtes venu ici, vous avez voyagé, certains d'entre vous sont venus de loin, d'Allemagne, d'Autriche et de différents endroits, et on va faire le tour et nous présenter les uns les autres dans un instant. Mais, je pense que vous avez tous une volonté d'apprendre. La vraie question, et ce vraiment à quoi ça tient, c'est quelle est votre volonté d'accepter le changement ? Et la raison pour laquelle je parle toujours de la volonté d'accepter le changement, c'est parce qu'on nous a enseigné certaines choses pendant toute notre vie. Et nous avons des croyances. Et ces croyances nous ont amenés là où vous êtes maintenant. Si vous n'êtes pas heureux avec là où vous en êtes maintenant, à ce moment-là, c'est à cause de vos croyances. Et donc, il va falloir que vous changiez ces noyaux de croyances et certains modes de pensée de base, afin de changer là où vous en êtes. Il y a un vieux proverbe qui dit si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Et vous ne pouvez pas changer. Et bien sûr, il y a aussi ce célèbre proverbe chinois que certains d'entre vous connaissent, qui dit la folie est définie comme continuer à faire la même chose en s'attendant à avoir des résultats différents. Et on pense à ça, et vous savez, il y a des tas de personnes que j'ai connues dans ma vie pendant 25 ans. Je parlais juste avec un de mes amis, on avait fait des affaires ensemble dans les années 80. Et c'était un type brillant. Je veux dire, quelqu'un de vraiment brillant. Et je lui ai parlé récemment et je me suis dit, mais ce type n'a pas changé depuis 1983. C'est exactement le même type. Il vit dans exactement la même maison de ville. Et sa vie n'a pas changé du tout. Son niveau de revenu n'a pas changé du tout. Et même il a diminué parce que sa manière de parler est la même. Son processus de pensée est le même. Rien. Il n'a pas grandi du tout. Il n'a pas du tout changé. Vous devez toujours continuer à évoluer et continuer à avancer. C'est comme une fleur. Elle est soit en train de croître, soit en train de mourir. Elle reste jamais sans bouger. Pour vous, c'est pareil. Vous devez continuer à évoluer, continuer à vous développer, continuer à grandir. Donc l'indice d'enseignabilité, à quel point êtes-vous enseignable? Le troisième concept de base est appelé la balance de l'équilibre du travail. Et la balance de l'équilibre du travail a deux côtés. Le premier côté est pensée, et le deuxième côté est l'action, ou ce qu'on fait, la balance de l'équilibre du travail. Il y a deux parties. La raison pour laquelle nous parlons de la balance de l'équilibre du travail, c'est que vous devez comprendre les deux côtés. Pensez, ce sont vos pensées, et vos rêves, vos buts, comment vous pensez, quel type de pensée vous émettez, sur quoi vous focalisez dans votre mental. C'est le pourquoi vous faites les choses, c'est la motivation, on peut l'appeler l'attitude, il y a beaucoup de mots. Mais cela a à voir avec simplement votre processus de pensée. Juste quand vous êtes assis et la façon dont vous pensez aux choses. Les actions comprennent toute activité physique. Cela inclut également les compétences, les techniques, les stratégies, le comment. Donc c'est plus l'aspect technique, mais ce sont les vraies étapes de l'action. La raison pour laquelle on l'appelle la balance de l'équilibre du travail, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'elle n'est jamais en équilibre. Pour qu'elle soit en équilibre, comme vous voyez sur la balance, il faut que vous mettiez au minimum 90% de vos efforts ici, et seulement 10% de vos efforts ici. Ça, c'est l'équilibre. La plupart des gens l'ont exactement à l'envers. Ils passent tout leur temps sur leurs actions. Mais je connais des gens aujourd'hui qui travaillent si dur, qui mettent 12, 14 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils font constamment des efforts pour construire leur business. Et ils disent toujours, je travaille si dur, je travaille si dur, je travaille si dur. Et ce dont on parle dans cette balance de l'équilibre du travail, c'est que les actions ne vont pas vous faire obtenir le moindre résultat, ou elles vont faire obtenir des résultats minimes si votre pensée n'est pas correcte. Si votre pensée est correcte, les actions ne comptent presque pas. Et la clé, c'est que les actions, quand votre pensée est correcte, les actions deviennent incroyablement agréables. Vous n'êtes pas en train de vous sacrifier, vous n'êtes pas en train de travailler dur. Elles deviennent des activités incroyablement agréables, et une activité minimale crée des résultats étonnants. Si vous l'avez dans l'autre sens, à ce moment-là, d'énormes quantités d'efforts et d'activités créent des résultats minimes. Et vous pouvez penser à votre expérience de vie personnelle, et c'est probablement vrai. Donc, la vraie clé ici, c'est d'avoir le processus de pensée correct. Toutes les personnes qui réussissent, quand vous leur demandez, et j'ai mentionné ceci la semaine dernière à Chicago, qu'est-ce qui est en fait la clé du succès? Certains le disent mot pour mot, comme Donald Trump. D'autres personnes, comme Mikhail Gorbatchev ou d'autres, vont le dire dans d'autres mots. Mais vous pouvez le traduire, ça veut dire la même chose. Et ce qu'ils disent, c'est ceci. Si vous voulez vraiment réussir, il y a deux éléments. Un, vous devez aimer ce que vous faites. Ce qui veut dire, quelles que soient les actions que vous faites, ce n'est pas du tout du travail. Vous en tirez un plaisir incroyable. C'est comme votre activité favorite. C'est pour ça que les personnes qui réussissent disent « je ne travaille pas ». Ils disent toujours ça, « je ne travaille jamais ». Mais vous mettez tout ce temps. Non, je ne travaille pas. J'adore faire ceci. Je veux dire, certaines personnes adorent skier. Certains adorent jouer au golf. Et ils font cette activité qu'ils adorent. Mais ils adorent faire cela. Pour d'autres, c'est du travail. J'adore cuisiner. Je peux être dans la cuisine pendant 3 ou 4 heures. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Et je dis « c'est pas du travail ». Je m'amuse beaucoup. C'est incroyable. Si je vois les gens qui descendent à ski de la montagne, je dis, mais j'ai pas envie de faire ça, c'est trop dur. Vous savez, c'est du travail. Ils me regardent en disant, non, non, on s'amuse. Nous sommes tous différents à cet égard. Oui.
quand ils sont interviewés, ils disent toujours, bien, nous travaillons 16 heures par jour au moins.
Oh oui, et ça c'est un point très important. Il a dit, quand ils sont interviewés, ils disent, je travaille 16 heures par jour au moins. Ils font tous ces efforts. Il y a vraiment deux éléments ici. Quand vous parlez aux personnes au très haut niveau, ils ont un... C'est une façon de répondre toute prête lorsqu'ils doivent répondre en public. Ce qui est assez différent de ce qui est raconté derrière les portes fermées. Il y a une raison à cela. Ça remonte à Henry Ford qui essayait d'écraser le travail de Napoleon Hill qui avait été missionné par Andrew Carnegie quand il a écrit son premier travail qui s'appelait « La loi du succès en 16 leçons ». Montrant les véritables secrets des personnes qui réussissent. Et Ford a dit, nous ne voulons pas que ça soit divulgué dans le public. Et il a en fait écrasé la publication de ce livre. Mais vous avez tout à fait raison. Parfois, ce que vous entendez...
Mais aussi, tous les politiques disent qu'ils travaillent 16 heures par jour.
Oui, c'est le temps qu'ils mettent dedans. Mais si vous leur demandez comment est-ce qu'ils le ressentent, ils ont un sourire sur leur visage et ils s'amusent avec cela plus que n'importe quoi. Donc ça, c'est une clé. La quantité de temps et d'efforts que vous mettez ne compte pas. Cependant, si vous remontez à l'époque d'Andrew Carnegie, qui, au début du 19e siècle, dirigeait US Steel, qui à l'époque était la plus grosse société quand JP Morgan l'a fusionné, en US Steel, qui est devenue la plus grosse et la plus profitable des sociétés dans le monde, si vous regardez le travail d'Andrew Carnegie, ses agendas réels, écrits de sa propre main, il arrivait au bureau à 10h du matin. Alors ça, c'était avant les téléx, avant les fax, avant les téléphones, avant les téléphones portables, etc. Il arrivait au travail le lundi à 10h du matin. Il avait un déjeuner pendant 1h30. Il quittait le bureau entre 4h et 4h30. Il dînait chez lui, il prenait aucun appel téléphonique le soir. Il avait ses week-ends libres. Et pour les 3 mois d'été, il allait en Écosse. Et il disait, ne me dérangez pas. Et ça, c'était la raison pour laquelle, quand il a missionné Napoleon Hill, pour faire le travail sur quels sont les véritables secrets du succès, ils ont trouvé que le vrai secret du succès n'est pas l'effort. L'effort peut être agréable et amusant. Mais en réalité, ça n'était pas l'effort, c'était la pensée, le processus de pensée. Et d'où le titre du livre de Napoleon Hill, qui était quoi? Est-ce que l'un d'entre vous connaît le nom du livre? Penser et devenir riche. C'était pas travailler dur et devenir riche. C'était penser et devenir riche, parce qu'il s'agit uniquement du processus de pensée, car il s'agit de l'élément le plus important. Le quatrième principe de base est ce qu'on appelle les 4 étapes. Les 4 étapes par lesquelles vous passez lorsque vous apprenez des informations. La première s'appelle l'incompétence inconsciente. Ça, c'est quand vous ne savez pas que vous ne savez pas. La suivante s'appelle l'incompétence consciente. C'est quand vous savez que vous ne savez pas. Le troisième niveau s'appelle la compétence consciente. Et ça, c'est le niveau auquel vous allez être pendant un certain temps. Ça, c'est quand vous connaissez l'information, quand vous apprenez l'information, mais vous devez l'appliquer consciemment. La compétence consciente. Et le quatrième niveau, c'est le niveau qu'il faut que vous atteigniez, qui s'appelle la compétence inconsciente. Ça, c'est quand ça arrive simplement automatiquement. C'est quand c'est devenu un processus automatique. Vous n'êtes pas dans la pensée, vous n'êtes plus dans le mode pensée quand il s'agit d'appliquer ces techniques. Elles arrivent simplement automatiquement parce qu'elles font partie de vous. Et ça c'est le niveau auquel on veut arriver. Et ça, c'est lorsque tout arrive automatiquement. C'est quand tout marche bien, vous n'avez jamais une question ou un problème ou un défi. Tout coule vraiment facilement. Et même lorsque des situations arrivent auxquelles vous ne vous attendiez pas ou que vous n'aimez pas particulièrement, ça ne vous dérange pas du tout, il n'y a aucun tourment émotionnel. Il n'y a aucun problème, quel qu'il soit. Simplement, vous y faites face, vous vous en occupez, et tout coule automatiquement. Et ça, c'est vraiment, vraiment un point clé. Donc ça, ce sont quelques-uns des principes de base. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet?
Et quel était le deuxième?
Le premier s'appelle l'incompétence inconsciente. Ça, c'est quand vous ne savez pas que vous ne savez pas, et le deuxième est appelé l'incompétence consciente. Maintenant, vous savez que vous ne savez pas. Et c'est bien d'en être à ce niveau, parce que c'est le niveau où vous dites « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Et c'est très bon d'être à ce niveau-là. Si. Et ça, c'est un niveau auquel vous serez toujours par rapport à quelque chose. Vraiment très important quand vous dites « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Je parlais à un garçon de 17 ans qui voulait devenir musicien. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses à faire une école de musique? Et il a dit, ils ne peuvent rien m'enseigner. Alors je lui ai dit dans le genre, vraiment? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Ils ne peuvent rien t'apprendre. Quel est son indice d'enseignabilité? Zéro, je veux dire. Il pense qu'il n'y a rien d'autre à apprendre là, ici-bas. Donc il n'est pas encore à ce niveau. Je ne sais pas ce que je ne sais pas encore. Vous voyez, si un jour il arrive à ce point, il pourra commencer à réussir. Sinon, il est simplement bloqué dans la boue pour toujours. Parce qu'il en est à ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions sur n'importe quoi de ce qu'on vient de voir? Oui.
J'ai une question à ce sujet.
Quel est votre nom à propos?
Oui, Johan Blettner.
Johan, heureux de faire votre connaissance.
Merci. J'ai une question sur les éléments du succès. Le premier élément, c'est aimer les activités. Et le deuxième,
j'ai pas encore mentionné. Il y a deux éléments. Il faut que vous aimiez ce que vous faites. Et le deuxième élément, je l'ai pas encore dit, parce que ça a rapport à quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Oui, je l'ai dit à Chicago, mais je vais le rappeler encore aujourd'hui.
Okay.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces principes de base? Oui.
Je suis encore en train de demander, je suis pas encore sûr de ce que c'est, ce qui distingue le niveau 2 et le niveau 3. Et les quatre étapes d'apprentissage ont l'air assez faciles, mais quand on essaye de les faire marcher, ce n'est pas si évident.
Les étapes 3 et 4 ou 2 et 3?
Non, 2 et 3. Entre l'incompétence consciente et la compétence consciente.
Oh, très bonne question. La question est, quelle est la différence entre les niveaux 2 et 3 dans les quatre étapes d'apprentissage? Ah, l'incompétence consciente est que vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez pas, et donc vous savez que vous devez apprendre quelque chose. Au niveau 3, maintenant on vous enseigne cette matière.
C'est pas l'étape où vous l'utilisez et vous faites que ça arrive et vous ne le saviez pas?
Non. En fait, la première partie, c'est par exemple, disons que vous êtes un joueur de golf, et vous avez pris quelques leçons, et tout d'un coup, vous voyez Tiger Woods, et il dit, tu sais, il faut que tu apprennes à faire quelques coups intéressants. Par exemple, comme ce coup très bas, où il dit, il faut aussi que tu apprennes, par exemple, comment vraiment accrocher la balle. Il faut aussi que tu apprennes à faire un high fade, comme ça la balle s'arrête net. Il faut que tu saches faire un low spinner, c'est-à-dire la balle arrive très bas, et puis ensuite elle s'arrête. Ensuite, il faut que tu saches faire un flop shot. Et vous pensez, mais je ne savais pas que tous ces différents coups existaient. Maintenant, vous êtes consciemment incompétent. Vous savez que tous ces coups existent, mais vous ne savez pas en faire un seul. Et ensuite, il vous dit, laisse-moi te montrer comment on fait un flop shot. Et maintenant, vous savez techniquement comment le faire. Mais quand vous allez essayer de le faire, vous pouvez échouer. Mais vous savez toujours techniquement comment le faire. Eh bien, vous êtes au niveau 3, vous êtes consciemment compétent. Vous savez comment le faire, mais vous devez consciemment vous y appliquer. Attends voir. Un long swing en arrière. Continuez. Et vous pensez le processus en même temps. Vous êtes consciemment compétent. Vous êtes vraiment en train d'appliquer la technique au niveau de la pensée. Mais quand vous arrivez au niveau 4, à ce moment-là, vous vous levez simplement et vous dites « flop shot ». Et vous le faites simplement, vous n'y pensez même plus. Un lanceur de balle, par exemple, si vous êtes en train d'apprendre à jouer au baseball, s'il dit « il faut que vous fassiez 5 pas ». Maintenant, vous pensez 1, 2, 3, 4, 5, vous lancez la balle. Mais une fois que vous arrivez au niveau 4, si vous demandez à quelqu'un qui a lancé la balle depuis un certain temps, combien est-ce que tu fais de pas? Je vais te dire, je sais pas. J'ai simplement lancé la balle. Ou si vous dites, comment est-ce que tu noues tes lacets? Je sais pas, j'ai simplement noué mes lacets. Je n'y pense plus. Quand on vous a enseigné la première fois comment nouer un lacet, il fallait que vous dites, ok, voyons voir. Le gauche va, non, le droit va au-dessus du gauche. Et vous pensez au processus. Donc, l'incompétence consciente, qui est le niveau 2. On vous montre quelque chose que vous ne connaissiez pas, et maintenant vous savez que vous ne savez pas comment faire cela. Niveau 3, c'est que maintenant on vous montre la technique, mais vous devez consciemment y penser. Et à cet égard, quand nous vous enseignons comment appliquer ces techniques, il faut que vous appliquiez consciemment la technique. Donc c'est une application consciente. Si vous ne saviez pas quelle est l'application, mais si vous saviez qu'il y a quelques résultats là, à ce moment-là, vous seriez au niveau 2. Est-ce que cela a répondu à votre question?
Je pense que oui, mais il y a encore une autre question qui n'est pas vraiment claire. Savoir si la différence est basée sur les résultats entre niveau 2 et 3. Comme disons que je suis au niveau 3 maintenant et que j'essaye de penser à la technique pour attirer quelque chose dans ma vie. Et je pense à la technique et je pense à la faire correctement, mais ça marche pas vraiment pour moi. C'est ça que je voulais dire quand je disais que je pensais que je me sentais consciemment incompétent.
Bonne question. Non, quand vous êtes consciemment en train d'appliquer la technique à cet égard, pour attirer quelque chose dans votre vie, il va y avoir... Le résultat n'est pas la réponse, pour savoir si c'est fait correctement ou pas. Les résultats ne sont pas la réponse, parce qu'il y a un décalage entre quand les résultats arrivent. Ok, ce qui détermine, par exemple, vous tapez une balle de golf et vous appliquez la technique parfaitement, vous pouvez voir immédiatement les résultats sur la balle de golf. Vous pouvez voir le vol, par exemple. Voilà. Mais ici, il y a un décalage de temps entre le moment où vous appliquez la technique et le moment du résultat effectif. Donc, quand vous êtes consciemment compétent, tout ce que ça veut dire, c'est que vous connaissez la matière et que vous êtes en train de l'appliquer consciemment. Si vous l'appliquez correctement par rapport à cela, il va y avoir un ressenti qui va être votre facteur déterminant. Donc ça va être la jauge. Dans beaucoup d'autres choses, les résultats peuvent être instantanés, comme taper une balle de golf ou lancer une balle au baseball, si vous appliquez la technique. Mais tant que vous savez, la clé c'est de savoir ce que vous avez fait correctement et ce que vous avez mal fait. Au golf, je vais utiliser ça comme un exemple. Un type arrive sur un parcours de golf, et il tape une balle, et la balle part absolument parfaitement. Droit dans l'air, comme une flèche. Et le type regarde autour de lui et dit, j'aimerais bien pouvoir faire ça à chaque fois. Et vous lui dites, tu l'as fait une fois, pourquoi tu peux pas le faire à chaque fois? Parce que je sais pas ce que j'ai fait. Ensuite, il arrive, et sur le coup d'après, il coupe la balle. Voum. Et à ce moment-là, il dit, vous savez, je sais pas ce que j'ai mal fait. Il ne connaît pas la technique, il n'a aucune idée de quoi faire pour corriger cela. Donc, la compétence consciente, ça veut vraiment dire simplement, vous savez quoi faire pour le corriger. Vous connaissez les étapes à appliquer. Et vous êtes confiant que vous savez quoi faire pour le corriger. Je connais les étapes, mais vous devez les appliquer consciemment. Bonne question. Donc, est-ce que vous pouvez dire que pour la compétence inconsciente, votre connaissance arrive naturellement? La compétence inconsciente veut dire que vous êtes en dehors de l'étape de la pensée. Vous n'y pensez plus. Comme le lanceur de balles. Combien de pas tu fais avant? J'en sais rien. J'ai juste lancé la balle. Vous savez, c'est comme si... Un bon exemple, et c'est... La semaine prochaine, je vais être à Bonn, en Allemagne, avec mon ami Mike Siegel, qui a été 10 fois champion du monde de billard. C'est le joueur de billard qui a le plus gagné dans tous les temps dans le monde entier. Il a gagné plus de tournois que n'importe qui d'autre. Le plus jeune joueur parmi les célébrités. Le type est un génie, il a été appelé le plus grand joueur au monde. Et il avait la main, et j'étais assis en train de regarder. Je devrais pas dire nous jouions au billard, il jouait au billard, donc il est en tournoi et je vais aller lui rendre visite. Et nous jouions au billard... Et j'étais assis là et je le regardais. Donc il prend la main et il termine la table. Je remets les balles. Il prend la main et il termine la table. Il prend la main et il termine la table. Et je remets les balles. Il reprend la main, il termine la table. Et je remets les balles. Il a gagné 8 parties à la suite. Et je suis assis là, simplement, je le regarde en train de gagner 8 parties d'affilée. Et pendant que je le regarde en train de faire ça, j'étudie vraiment sa technique et tout ce qu'il est en train de faire. Et je lui dis, Mike, il est allongé sur la table et il est prêt à tirer. Je lui dis, Mike, juste avant de tirer, à quoi est-ce que tu es en train de penser? Est-ce que tu vois la balle qui va dans la poche? Il me dit, quoi? Je lui dis, juste avant de tirer, à quoi est-ce que tu penses? Mais il me regarde d'un air de dire, mais qu'est-ce que j'en sais, ce que, quoi je pense? J'en sais rien. Et j'ai dit, bah, tu dois bien penser à quelque chose. Et il dit, attends une minute. Parce qu'il était, inconsciemment compétent. Et il faisait simplement. Et maintenant, il faut qu'il prenne un pas de recul. Et en fait, il a pris un pas de recul physiquement. Et il s'est mis à réfléchir, mais qu'est-ce que c'est que je fais? Et il se penche sur la balle, il se lève, il va se pencher sur la balle. Et je lui dis, est-ce que tu vois la balle qui va dans le trou? Il dit, non, j'entends la balle qui va dans le trou. Je ne la vois pas, je l'entends aller dans le trou. Alors je lui dis ensuite, tu l'entends? Il me dit, oui. Je lui dis, d'accord, laisse-moi ce coup-là. Alors je me lève, j'arrive, et je fais ce coup-là. Je prends une position parfaite. Et c'est moi qui gagne tous les coups sur la table. Il remet les balles en jeu, et je gagne toute la table. Il remet les balles en jeu, et je gagne toute la table. Et je dis, ça marche! Mais le point est qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Un autre exemple est le suivant. Il travaillait sur mon coup. Il m'expliquait comment frapper la balle. Il m'expliquait comment le faire. Et je fais exactement, j'ai fait son miroir, je faisais exactement ce qu'il disait de faire. Et ensuite, je lui ai dit, tape quelques balles. Et puis, je le regarde et je lui dis ensuite, Mike, tu ne fais pas ce que tu me dis de faire. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, ça, c'est ce que ton bras est en train de faire. Et toi, tu me dis de faire ça. Alors que ton bras, il fait ça. Et il dit, oui, tu as raison. Il savait même pas. Parce qu'il était inconsciemment compétent. Parce qu'il était sorti de ce qu'on appelle le niveau pensée. Et c'est vraiment là où vous allez commencer à arriver avec ça. Vous allez être en dehors de l'étape de la pensée et ça va arriver simplement automatiquement. Alors, avec les années, tout ce matériel, par exemple, a été codifié de manière à ce que nous puissions l'enseigner. Et ça a été enseigné à des générations, pratiquement de bouche à oreille. Et donc, pour la première fois, nous l'avons codifié. Et c'est pour ça que ça a pris si longtemps, depuis l'an 2000, pour organiser tout ce matériel, toute cette matière, de telle manière qu'elle puisse être enseignée facilement. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur n'importe lequel de ces principes de base? Ok, très bien. Nous allons prendre une courte pause. Pour ceux d'entre vous qui écoutez les CD, c'est la fin du CD. Rendez-vous au prochain CD. Et pour ceux qui sont ici, on se retrouve dans quelques minutes.